Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 5. Et je voudrais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 30. Et je voudrais vous parler de l'autorité du Fils de Dieu. Il y en a aujourd'hui qui ont un Jésus qu'ils aiment manipuler, c'est-à-dire, selon ce qu'on leur a enseigné, c'est un Jésus qui a désiré à ce que les pécheurs prennent une décision pour lui et l'acceptent, et donc, les gens ayant accepté ce Jésus-là, c'est comme une idole. Maintenant, ce Jésus est entre leurs mains. Et Jésus continue, ce Jésus-là continue à vouloir que les hommes fassent certaines choses pour lui plaire, mais hélas, la décision dépend toujours de l'homme. Je dois dire que ça, ce n'est pas le Seigneur Jésus de la Bible. Tout ce que nous lisons au sujet du Seigneur Jésus de la Bible, c'est qu'il a toute autorité et que cette autorité lui est donnée de son Père. Et comme nous allons voir ici dans ce texte, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 30, Christ démontre son autorité en tant que Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Il faut comprendre que les gens qui voyaient le Seigneur Jésus en chair ne voyaient qu'un homme. Et c'est pourquoi ils continuaient à disputer son autorité en tant qu'homme, parce que le Seigneur Jésus n'a pas suivi les traditions des hommes religieux de son époque. Il était lui-même sa propre autorité. Et donc, pour cela, les gens le contestaient. Mais néanmoins, ça ne change pas qui il est. Et c'est la même chose aujourd'hui, lorsque nous prêchons, peu importe le Jésus qui est prêché par les hommes religieux et les organisations religieuses, nous devons annoncer le Christ qui a toute autorité. Comme c'est écrit ici, que le Père a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Mais lisons dans le verset 17, parce qu'il faut comprendre le contexte, comme nous avons vu la dernière fois, les hommes pharisiens, les hommes religieux, les juifs, disputaient avec Christ pour avoir guéri un homme malade le jour du sabbat. Nous avons vu que Christ est le sabbat. Il est venu donner le repos aux pécheurs. Mais les gens préfèrent tenir ferme à leur tradition que de se soumettre à Christ, même à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous annoncez aux gens que non, le sabbat n'est pas un jour, mais c'est une personne, c'est la personne de Christ, c'est lui, le repos des enfants de Dieu. Alors, ils contestent, ils veulent toujours faire d'un jour le sabbat, mais c'est la personne de Christ qui est le sabbat. Donc, c'est dans ce contexte, avec ces disputes des hommes, que nous lisons ici dans le verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc, nous voyons ici que le Dieu de la Bible est une divinité qui comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela ne fait pas trois différents dieux, mais un seul Dieu. Et néanmoins, en trois personnes, ce n'est pas qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste trois différentes façons, non, il y a trois personnes dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. il y a des gens qui disent que non, que Christ, tantôt, il portait le chapeau du Père, tantôt du Fils, et tantôt du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas comprendre le salut révélé dans les Écritures sans comprendre qu'il y a trois différentes personnes. Il y a le Père et sa justice qui devait être satisfaite. Et puis il y a le Fils que le Père a envoyé et qui a accompli l'œuvre du Père, tout ce que la loi et la justice exigeaient. Le Fils a accompli. Lorsque Christ s'adressait à son Père, il n'était pas en train de parler à lui-même. Il s'adressait à son Père. Donc, une véritable personne éternelle comme le Fils, différente, mais unie. Et puis, le Saint-Esprit qui œuvre pour attirer à Christ tous ceux pour qui il a payé la dette. Donc, c'est pourquoi Christ dit ici, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mais la raison pour laquelle Christ insiste là-dessus, c'est parce que ces hommes religieux ne croyaient pas que Dieu pouvait prendre chair. Et nous pouvons imaginer, c'est un mystère, le fait que Dieu ait pris chair et devenu homme. C'est unique ici dans les Écritures, mais néanmoins la vérité. Et pour nous de croire en ce Christ, nous croyons qu'il est Dieu dans la chair. Et c'est comme ça que ces hommes ont compris cette déclaration de Christ lorsqu'il a dit, « Moi, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Il se faisait l'égal avec Dieu. Et avec raison, parce qu'il est Dieu. Si des gens disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu, donc ils ne croient pas en Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus est Dieu. Et nous voyons ça clairement déclaré ici. Nous voyons l'unité ici entre le Père et le Fils. Et comme nous continuons à lire, verset 18, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, et voilà, se faisant lui-même égal à Dieu. » Donc, nous ne pouvons pas ignorer cette vérité concernant le Seigneur Jésus et dire que nous croyons en lui, d'ignorer qu'il est Dieu lui-même. Ce n'est pas seulement qu'il se faisait lui-même égal à Dieu, mais il était égal à Dieu. Et voilà le mystère de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est devenu homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. Parce que verset 17 le dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc nous allons, à travers cette étude, chercher à comprendre les différentes manières que le Fils a agi à l'égard de son Père. Et il y a cette harmonie que nous voyons dans les Écritures, entre le Fils et le Père. Il n'y a jamais eu de séparation entre le Père et le Fils dans cette union éternelle. Il n'a pas cessé d'être Dieu en devenant homme, mais il devait agir en tant qu'homme comme s'il n'était pas Dieu, parce qu'il est venu pour accomplir le salut à l'égard des pécheurs que le Père lui a donné, et là, il devait l'accomplir en tant qu'homme, à l'égard des hommes que le Père lui a donné. Alors, à travers ce passage que nous sommes en train d'étudier, j'ai noté ici sept manières que le Fils agissait avec l'autorité du Père. Parce qu'ici, Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Donc, il faut comprendre par là, depuis l'éternité, il est avec son Père. Et jusqu'à présent, vous voulez dire, dans tout ce qu'il faisait maintenant en tant qu'homme, il n'a pas cessé d'agir à l'égard de son Père, dans cette union, dans cette harmonie. Et le premier domaine dans lequel nous voyons cette œuvre du Fils à l'égard du Père, c'est dans son œuvre rédemptrice, la rédemption. Quand il dit ici, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, c'est concernant la rédemption. Et pour comprendre la rédemption de Jésus-Christ, il ne faut pas commencer à la croix. La croix, c'était la manifestation de ce que le Père et le Fils avaient déjà ordonné depuis l'éternité. La rédemption n'était pas un plan que Dieu maintenant a mis en marche parce que, hélas, les pécheurs ne voulaient pas le suivre. Si nous comprenons bien ce que disent les Écritures, ce plan de rédemption que Dieu a ordonné existe depuis l'éternité. Et quand Christ dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis », c'est dans ce plan de rédemption depuis l'éternité qu'il agit. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 1, où le verset 4 nous dit « En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Si nous comprenons bien ce verset, cela veut dire que même avant qu'il n'y ait eu un pécheur, comme Adam qui a péché dans le monde, il y avait déjà cette élection de la grâce de Dieu pour le salut, afin que ceux que le Père a choisis soit saint et irrépréhensible devant lui, pas en eux-mêmes, mais par l'œuvre de Christ, déclaré saint. Ça, c'est la justification. La rédemption et la justification vont ensemble. Sans la rédemption, c'est-à-dire le rachat, le paiement de la rançon, il n'y a pas de justification. Mais puisque maintenant, la rédemption a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, donc, il ne reste que pour Dieu de justifier, déclarer juste, déclarer saint et irrépréhensible devant lui chaque pécheur pour qui Christ est mort. Et tout cela a été prédestiné, c'est écrit dans le verset 5 d'Éphésiens 1, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. J'ai deux enfants que nous avons adoptés, mais on a dû légaliser leur certificat de naissance pour que maintenant, si vous voyez leur certificat de naissance, le nom, les noms des parents qui sont sur ces certificats de naissance sont les miens et celui de ma femme. Quand vous voyez le certificat de naissance de mes deux enfants adoptifs, vous ne pouvez pas distinguer une différence entre eux et notre enfant biologique que le Seigneur nous a donné. Il n'y a pas de différence. Une fois que ces papiers sont signés, c'est légal et personne ne peut renverser cela. C'est comme ça que c'était écrit ici au sujet des pécheurs qui devait être destiné à la condamnation, mais Dieu, dans sa grâce, les a prédestinés. Notez, dans son amour, il n'y a pas d'amour général dans la Bible où c'est écrit que, oui, Dieu aime tous les hommes, sans exception, et voilà, il veut bien que ceux-là soient sauvés. Si tel était le cas, ils seraient sauvés, parce que tous ceux que Dieu aime, Christ a payé leur dette, selon ce que nous lisons ici, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Rien ne se passe sauf par Jésus-Christ. C'est dans cela que nous voyons l'autorité du Fils de Dieu. Et c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Et verset 6 d'Éphésiens 1 dit, « À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. » C'est toujours en Jésus-Christ ou en son bien-aimé. Sa grâce n'est pas détachée de son Fils. Toute grâce vient au pécheur que Dieu sauve par le Seigneur Jésus, par son autorité et par son œuvre accomplie à la croix à leur égard. Et voilà le lien maintenant entre la rédemption et la prédestination, parce que verset 7 dit, en lui nous avons la rédemption. Notez bien, ça ne dit pas nous aurons la rédemption, comme si ça dépend maintenant de nous, ou conditionné sur notre décision, non. En lui nous avons la rédemption, par son sang. Donc à quel moment est-ce que les pécheurs que Dieu a sauvés étaient justifiés, ou bien rachetés, ou bien sanctifiés? C'est écrit par son sang. Lorsque Christ a versé son sang, alors l'œuvre du salut était accomplie. Et avec ça, c'est écrit la rémission des péchés. Cela veut dire que Christ a si complètement payé la dette des péchés de son peuple qu'il ne reste plus rien que la justice de Dieu d'attribuer, d'imputer à leur compte. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de condamnation à cause de cela. Bien sûr, ceux que Christ a rachetés lorsqu'ils sont nés dans ce monde, ils sont nés dans les ténèbres, ils sont nés dans l'aveuglement, ils sont nés avec un cœur rebelle contre Dieu. Mais si Christ a racheté un pécheur, il faut maintenant, dans le temps prévu par Dieu lui-même, que ces pécheurs-là soient attirés à Christ par le Saint-Esprit et par la prédication fidèle de l'Évangile. Il se peut que je suis en train de prêcher à certains qui étaient élus avant la fondation du monde et rachetés déjà par le Seigneur Jésus, mais qui ignorent qu'ils appartiennent à Christ. Mais c'est l'Esprit qui vient maintenant révéler Christ dans leur cœur. C'est la seule raison, je peux dire, que je connais Christ aujourd'hui. Mais ce n'est pas au moment que Christ était révélé à moi que j'étais sauvé, non. J'étais sauvé à la croix lorsque Christ a payé la dette. Mes péchés étaient déjà remis. Ouais. Ce n'est pas comme les prédicateurs qui disent que si vous confessez Christ, alors vos péchés vous seront pardonnés. Non. Si les péchés n'étaient pas déjà pardonnés à la croix, les péchés ne seront pas pardonnés par ma foi. Non. Le pardon du péché, la rémission des péchés, la justification des pécheurs ont été accomplis à la croix. C'est écrit selon la richesse de sa grâce. Donc, revenons dans notre texte ici, dans Jean chapitre 5. Voilà comment le Seigneur Jésus, en tant que Fils de Dieu et son Père, sont unis. et que le Fils a toute autorité de son Père. C'est dans cette œuvre rédemptrice qu'il a accompli à la croix. Mais deuxièmement, dans le verset 19, nous savons que le Père et le Fils sont unis dans la volonté du Père. Ce qui est la volonté du Père est la volonté du Fils. C'est pourquoi Christ dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, nous voyons encore, en ce qui concerne l'œuvre du salut, ce n'est pas que le Père veut certaines choses, mais le Fils aussi veut d'autres, et puis le Saint-Esprit aussi est en train d'agir d'une autre manière. Non, les trois sont unis. Quand c'est écrit ici, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce n'est pas par manque de pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas que Christ ne pouvait pas sauver tous les hommes. Il pouvait. Mais c'est une question de vouloir ou bien de dessein. Si vous croyez que le Seigneur Jésus voulait ou bien veut sauver tous les hommes, mais en fin de compte, tous les hommes ne sont pas sauvés. Vous ne voyez pas comment vous limitez alors la puissance du Seigneur Jésus. Ce n'est pas par manque de pouvoir que tous les hommes ne sont pas sauvés, mais c'est selon le dessein arrêté de Dieu. Je sais qu'il y en a qui disent, ah, mais si vous dites que Christ n'est pas venu pour sauver tous les individus du monde, donc vous limitez le Seigneur. Il faut savoir que si vous croyez que le Seigneur Jésus est venu pour chercher sauver tous les individus du monde sans exception, et ils ne sont pas sauvés, vous ne voyez pas comment vous limitez le Seigneur Jésus. Vous limitez le Seigneur dans son pouvoir. Vous êtes en train de dire qu'il veut bien sauver tous les hommes, mais là, s'il ne peut pas, vous rendez l'homme plus puissant que le Seigneur Jésus. Donc, je dois vous dire que la seule raison pour laquelle tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est parce que Dieu n'a jamais destiné tous les hommes au salut. Et c'est pourquoi Christ dit ici, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que suivre les instructions de son Père. Il n'est pas en train d'agir indépendamment de ce que le Père veut, la volonté du Père. Et je remercie le Seigneur que c'est comme ça. Parce que là, je sais, selon ce que dit les Écritures, que non seulement la volonté de Dieu est accomplie à travers le Seigneur Jésus à l'égard des pécheurs, mais aussi la puissance du Seigneur Jésus est manifestée en sauvant chacun que le Père lui a donné. Donc, dans son œuvre rédemptrice, nous voyons cette unité entre le Fils et le Père et aussi dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous voyons cette unité, cette autorité du Seigneur Jésus. Mais troisièmement, dans le verset 20, nous voyons que le Père et le Fils sont aussi unis dans la sagesse en ce qui concerne le salut des pécheurs. Dans le verset 20, c'est écrit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, il y a cette union entre le Père et le Fils décrit ici comme l'amour, un amour éternel entre le Père et le Fils, et rien n'est caché du Fils que le Père ordonne. Les deux sont unis. Parfois, on peut vivre ensemble avec nos enfants, mais sans savoir exactement ce qu'ils sont en train de penser. On vit ensemble et on dit « Ah, je vous aime », mais on ne sait pas exactement ce qui se passe dans leur cerveau. Tel n'est pas le cas entre le Père et le Fils. Et la sagesse de Dieu, tout est manifesté et déjà uni dans le Seigneur Jésus, car le Père aime le Fils et lui montre, voyez ça, tout ce qu'il fait. Il y a, parfois, nous avons nos enfants, mais on ne leur montre pas tout ce que nous faisons. Parfois, la sagesse détermine qu'il vaut mieux ne pas tout dire, mais en même temps diriger nos enfants. Mais tel n'est pas le cas avec le Père et le Fils en ce qui concerne la divinité. Tout ce que le Père est, le Fils connaît. Telle est cette union qui existe entre le Père et le Fils. Tout ce que le Père désire et a ordonné est déjà révélé au Fils. Et c'est pour ça que le Fils est venu maintenant pour accomplir cela. Et c'est au fur et à mesure que le Fils agit, tel que nous le voyons ici dans les Écritures, que nous comprenons davantage ce qui était la volonté du Père. Il faut savoir que tous les attributs de Dieu sont manifestés dans le Seigneur Jésus. Si nous voulons connaître Dieu, ça va être à travers le Fils, parce que tout ce que le Père veut, il révèle à travers son Fils. Telle est l'autorité du Fils de Dieu. Et c'est pourquoi, plus tard, dans l'Évangile selon Jean, et le chapitre 14, quand les disciples ont demandé à voir le Père, Thomas surtout a demandé, comment pouvons-nous en savoir le chemin au Père, dans le verset 5. Et Christ a répondu dans le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Telle est l'autorité du Fils de Dieu que personne ne peut venir au Père si ce n'est par lui. Et il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, en voyant le Fils, pas avec des yeux physiques, il y en avait même autant de fils qui l'ont vu physiquement, mais qui n'ont pas cru. Mais c'est de le voir spirituellement, comme nous avons déjà vu dans Jean chapitre 3, l'Esprit de Dieu donnant les yeux pour voir et contempler. Voilà comment nous pouvons connaître le Fils. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc ici, c'est sur ce point que Christ est en train d'insister dans Jean 5 de notre texte et le verset 20. Car le Père aime le Fils. Si on aime quelqu'un, on ne cache rien de cette personne. Le Père aime le Fils. Donc, il y a cette union et communion parfaite qui non seulement existait depuis l'éternité, mais même lorsque Christ était sur la terre, en train d'accomplir l'œuvre que le Père lui a donnée et prenant sur lui la charge du péché de son peuple, il n'a jamais cessé d'aimer le Fils. Il y en a qui prétendent que lorsque Christ était en train de mourir sur la croix, et il y avait ces 3 heures de ténèbres qui ont passé de midi jusqu'à 3 heures après-midi, ils disent que c'est à ce moment-là que le Père a tourné son dos sur son Fils. Il a caché son visage de lui. Mais je dois dire non, il n'y a jamais eu un temps où le Père a cessé d'aimer son Fils et a regardé à son Fils et a approuvé son Fils. Le fait que cela a été caché du monde, c'est comme si Christ entrait maintenant à travers le voile et il était en communion avec son Père. Le Père était à ce moment-là, en train d'inspecter l'agneau, parce qu'il paraît que l'agneau soit sans péché. Et c'est à ce moment-là que le Père était en train de regarder et approuver l'offrande de Christ plus que jamais. Et puis, lorsque tout était accompli, c'est là que Christ a crié, tout est accompli. Voilà, maintenant, il a rendu son âme à son Père. Et la preuve que le Père était satisfait, c'est que, après 3 jours, il a ressuscité. Ça, c'est la preuve. S'il restait même un aspect de l'œuvre de Christ qui n'était pas accompli, donc, on n'aurait pas lu au sujet de la résurrection de Christ. Il est ressuscité à cause de la justification accomplie par le Seigneur Jésus. Mais cette connaissance, cette sagesse de Dieu et ce que Dieu a arrêté et ce que le Fils a accompli, cette union, nous voyons ça clairement ici dans le verset 20. Mais quatrièmement, nous sommes en train de voir dans quel sens Christ a cette autorité du Père. Avant d'aller au verset 21, je voudrais revenir ici à la déclaration de Christ dans le verset 20 où il dit « Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Qu'est-ce qui pouvait être des œuvres plus grandes, par exemple, de ce que les gens ont vu jusque-là? C'était les miracles. Il y en a aujourd'hui qui, c'est tout ce qu'ils veulent voir, c'est des miracles. Mais Christ a dit, ça c'était, ces miracles n'étaient qu'une preuve de sa personne et qui il était. Mais quelles œuvres plus grandes encore qui devaient étonner même ceux qui ne croyaient pas? C'est sa mort, la manière qu'il est mort, et surtout sa résurrection, et puis son ascension, où il est monté au ciel, tout cela, les gens cherchaient toujours à empêcher le Seigneur Jésus d'accomplir ce qu'il est venu faire, mais nul ne pouvait l'empêcher, même à travers sa mort. Tout en faisant ce que les hommes ont fait de lui, ils n'ont fait pas plus ou moins que ce que Dieu lui-même a arrêté. Dans tout cela, Christ continue à démontrer son autorité. Mais dans le verset 21, quatrièmement, nous voyons ici les droits souverains que le Fils a de son Père, parce que c'est écrit dans le verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, notez, le Fils donne la vie à qui il veut. Je dois dire que il y a des gens aujourd'hui qui acceptent que Jésus est Dieu. Ils aiment parler de ces miracles qui ont démontré son pouvoir et son autorité en tant que Dieu. Mais quand il s'agit maintenant de cette question de la souveraineté de Christ, de faire et d'accomplir ce qu'il veut et donner la vie à qui il veut, ah voilà, maintenant nous voyons surtout la rébellion des gens. Ils disent que non, que ça dépend de la volonté de l'homme. Vous ne voyez pas comment prendre une telle position, c'est de contredire tout ce que la Bible dit au sujet du salut. Ici, c'est clairement déclaré, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ils avaient vu à travers les miracles de Christ des résurrections des morts, et ils allaient voir encore, surtout avec Lazare et autres. Et notez, ça tombe encore sous cette doctrine, cette vérité que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc ici, quand c'est écrit « comme le Père ressuscite les morts », il est en train de dire, lorsqu'il, Christ, ressuscitait les morts, c'était le Père en train de ressusciter ses morts à travers lui. Mais il dit, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Faut comprendre, ce n'était pas tous les morts au jour du Christ qu'il est allé ressusciter. Il y en avait certains, comme Lazare, lorsqu'il s'est approché du tombeau, il a dit, Lazare sort. Il n'a pas dit tous les morts sort. Il y en avait qu'il a laissé dans leur état de mort, mais Lazare, il a fait sortir. Et c'est comme ça spirituellement dans le salut. Pourquoi je crois aujourd'hui? Pourquoi vous croyez si vous êtes à Christ? C'est parce que Christ a voulu que nous soyons ressuscités spirituellement. Et c'est ça qui nous donne l'espérance que lorsque nous allons mourir physiquement, qu'au jour de la résurrection finale, il ressuscitera encore ses corps mortels et ce qui est corruptible se transformera maintenant dans l'incorruptible. Telle est la gloire de Christ. Mais notez dans le verset 21, tout cela c'est selon la volonté du Fils. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça c'est le Christ de la Bible. Toute autorité lui a été donnée pour accomplir ce qu'il veut. Nous avons vu ça déjà en lisant dans Éphésiens chapitre 1, dans le passage où j'étais tout à l'heure, où c'est écrit, là, dans le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça ne dit pas selon le bon plaisir de notre volonté, mais selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà l'autorité qui appartient au Fils de Dieu. Selon la volonté du Père, parce que le Père agit, Christ dit, et moi aussi, j'agis. Je sais que notre temps passe, mais je voudrais voir encore trois autres points concernant l'autorité du Seigneur Jésus. Et ça, nous voyons dans les versets 22 et 23 de Jean 5, et ici, nous voyons l'autorité du Seigneur Jésus en ce qui concerne l'honneur et l'adoration. Si Christ n'était pas Dieu, donc on ne devrait pas l'adorer. Mais nous sommes instruits dans les Écritures que nul ne peut venir au Père si ce n'est par lui. Et c'est ce que Christ dit ici à partir du verset 22 et 23, Jean 5. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous, notez, honorent le Fils. Ce mot honorer signifie de donner la même gloire au Fils qu'on donne au Père. Il n'y a pas de distinction. C'est pourquoi, lorsque nous prions au nom du Seigneur Jésus. Cela ne veut pas dire qu'à la fin de la prière, nous devons toujours dire au nom du Seigneur Jésus, Amen. Donc, toute la prière, c'est au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire à l'honneur du Seigneur Jésus. On ne peut pas demander quoi que ce soit du Père et anticiper avoir une réponse si ce n'est à travers le Seigneur Jésus. Parce que Christ dit ici dans le verset 23, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je sais, aujourd'hui nous vivons dans une époque où les gens veulent qu'on reconnaisse tous les différents petits dieux que les gens adorent. Alors, dans une invocation publique, les gens cherchent à adresser Dieu d'une manière neutre. C'est-à-dire que on ne va pas dire quoi que ce soit dans la prière pour offenser qui que ce soit. Mais ça, ce n'est pas une prière. Une véritable prière est toujours une prière adressée à Dieu à travers son Fils, le Seigneur Jésus. À part lui, ce n'est pas la prière. Et c'est la même chose dans nos temps d'adoration. Si nous venons devant Dieu pour l'adorer, mais Christ n'est pas honoré, ce n'est pas à cause de lui que nous sommes là. Si la prédication et les chansons ne sont pas centrées sur lui, en lui donnant toute la gloire, donc c'est une adoration vaine. Parce que c'est écrit clairement ainsi, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui m'a envoyé. Alors, dans cela, nous voyons clairement l'autorité du Fils de Dieu en ce qu'il doit être honoré et adoré exactement comme Dieu lui-même, le Père. Et puis, numéro 6, dans les versets 24 à 26, nous voyons l'autorité du Fils et cette union avec le Père de la manière qui donne la vie aux pécheurs. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La prochaine fois, nous allons revenir sur ces versets parce que je voudrais approfondir véritablement l'enseignement là-dedans. Mais pour le moment, nous sommes en train de voir ici que l'autorité de Christ est en donnant la vie afin que les pécheurs croient en lui. Notez bien l'ordre. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Donc il faut que Christ donne d'abord les oreilles pour entendre, pour écouter. Ce n'est pas simplement avoir des oreilles physiques qui veut dire que des gens entendent. Il y a des sourds qui ont bien des oreilles physiques, mais lorsqu'on leur parle, ils n'entendent pas. Il faut que Christ donne cet entendement pour écouter sa parole. Et ensuite, qui croit? Celui qui entend croit. Et c'est écrit, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Croire en Christ, c'est de croire en Dieu. Honorer le Fils, c'est honorer le Père. Ne pas honorer le Fils n'est pas honorer le Père. Mais notez, ici, c'est écrit, celui qui écoute et qui croit, ça ne dit pas aura la vie éternelle, mais c'est écrit a la vie éternelle. La raison pour laquelle quelqu'un écoute et croit, c'est parce que Christ leur a déjà donné la vie éternelle. Telle est l'autorité du Fils de Dieu en donnant cette vie selon la volonté du Père. Et ne vient point en jugement, mais notez, il est passé de la mort à la vie, déjà. Je sais qu'il y a une résurrection physique future, mais ici il s'agit d'une résurrection spirituelle, ayant déjà cette vie en Christ, selon le commandement de Christ. Et c'est pourquoi il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Quand c'est écrit, l'heure est déjà venue, ici il n'est pas en train de parler d'une résurrection future, mais il est en train de parler de la régénération, que lorsque Christ ouvre le cœur d'un pécheur mort spirituellement dans ses péchés, ce pécheur-là vit et il entend la voix du Fils. C'est pourquoi je suis en train de vous parler du Fils aujourd'hui. C'est à cause de cette œuvre de la régénération du Seigneur Jésus. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils, voilà l'autorité du Fils, d'avoir la vie en lui-même. Nous allons revenir sur ça la prochaine fois, parce que je voudrais vous parler de la régénération et comment cette vie est en Christ. Ce n'est pas dans la décision de l'homme, mais c'est en Christ. Mais pour terminer aujourd'hui, nous voyons dans le verset 27, le pouvoir de Christ et l'autorité de Christ, c'est une autorité judiciaire en tant que juge. Et c'est écrit, le verset 27, « Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. » Il y a un homme aujourd'hui au ciel, par lui tout jugement est rendu. Soit vous êtes en Christ ou vous n'êtes pas en lui. Mais personne ne peut échapper au Fils. Il est venu en tant que fils de l'homme pour accomplir le salut en tant qu'homme. C'est pourquoi c'est écrit, c'est en tant que fils de l'homme qu'il juge les gens. Parce que il est venu en tant qu'homme pour accomplir le salut à l'égard de son Père. Bien vrai, il est Dieu. Mais le jour du jugement, ils feront face à cet homme. Il y a un homme assis au ciel qui représente des hommes. Et il a tout pouvoir entre ses mains de donner la vie éternelle dans Jean 17 et le verset 2, qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné, c'est-à-dire le Père lui a donné. Alors ce pouvoir, Christ a mérité, ce pouvoir judiciaire, légal, Christ a mérité à travers sa vie sur cette terre en tant qu'homme, ayant satisfait en tant qu'homme toute la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Et c'est pourquoi il est monté maintenant, ressuscité et monté au ciel. Et dans Philippiens chapitre 2, c'est écrit afin que tous genoux fléchissent et reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de son Père. Alors j'espère qu'à travers ce message, tout l'honneur et toute la gloire est revenu au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est certainement digne de cette gloire et toute autorité lui appartient en tant que Fils éternel de Dieu.